dans le genre de...
Quel genre ?
Grande gueule.
Icône. Dans le genre...
Femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me les casse.
Puissant.
Masculin.
Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Macho.
C'est pas mon genre.
Dans le genre, l'émission qui vous plonge au cœur de l'identité et des genres. Une émission de Géraldine Saratia.
Huel Lamor, est-ce que vous vous trouvez féminine ?
Bah oui, je pense que je me trouve féminine. Enfin, pour moi, la féminité, ça veut dire plein de choses différentes, donc oui.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le genre. Je reçois ce soir Huel Lamor. Alors Huel a 26 ans, elle est chef d'orchestre. C'est une des rares chefs d'orchestre françaises. Elles sont une petite vingtaine sur à peu près 500. Alors chez elle, pas de catégorie, de hiérarchie ou de classicisme. Elle s'intéresse aux musiques actuelles et prône une approche musicale décloisonnée, dégenrée. Elle fait ses études aux USA, Los Angeles tout d'abord, puis Berkeley à Boston où elle se spécialise dans la direction orchestrale et la composition. À son retour en France en 2017, elle fonde un orchestre, Orage, qui se met au service donc de groupes et de musiciens. Elle a par exemple collaboré avec Étienne Dao, Agar Agar, Grand Blanc, et puis récemment, pendant le confinement, pour le festival de Bourges confiné, elle a par exemple dirigé une reprise de Portishead, Rhodes, en compagnie de Yann Wagner et Malik Djoudi. On en écoute un extrait. Cette jeune femme de 26 ans, fan de manga et qui vit à Vitry avec sa copine quand elle n'est pas en voyage aux quatre coins du monde, compose également sa propre musique. Ça peut être de la musique de film. Elle travaille actuellement avec Aïssa Maïga. Elle prépare également un premier album. On écoute un premier extrait, Trax, du EP qui vient de sortir. Voilà, on va parler musique ce soir, genre, représentation, diversité. C'est parti pour une heure dans le genre de Huel Lamor.
Nova.
Dans le genre.
L'enfance.
Alors, j'ai grandi à Paris, en banlieue et en Afrique, les trois en fait. Je viens d'une famille...
C'est-à-dire, quand vous dites les trois, c'était dans quel ordre ?
Moi aussi, je me remets dans le jus de parler à des vraies personnes.
Oui, c'est notre première émission à Nova, en présence. Donc c'est vrai que c'est un peu dans le studio spécial distanciation sociale. Pour les auditeurs, on est à je sais pas, 3 mètres de distance, je pense.
Oui.
Donc voilà, c'est des circonstances assez, assez étranges.
Oui. Alors, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Et quand j'avais à peu près 6 ans, on est parti en Afrique. On faisait des voyages plutôt assez longs, restait plusieurs mois là-bas, ça a duré 2-3 ans. Et après, avec mes parents, on a déménagé à Vitry-sur-Seine, 94-400. Voilà. Et moi je suis toujours à Vitry, même si je me considère un peu comme une fausse banlieusarde parce que je passe tout mon temps à Paris. Malheureusement, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire à Vitry. Et ma famille, une famille un peu hors système dans la manière dont elle fonctionnait. C'est-à-dire que tout le monde était dans l'art ou la culture, enfin, hyper profession indépendante, quoi. Et ma mère et mon père, vu qu'ils ne sont pas français à la base, enfin, ma mère si, mais bon, oui et non. En fait, on avait une famille recomposée. C'est-à-dire que mes oncles et mes tantes, c'était pas mes oncles et mes tantes de sang, c'était plus les meilleurs amis de la famille qui, en fait, étaient la véritable famille. Donc, une famille hyper multiculturelle, avec des gens qui venaient de tous bords, enfin, hyper divers. Donc, j'ai grandi là-dedans.
Votre père était sculpteur, enfin peintre ou est toujours
sculpteur,
peintre
ouais, sculpteur. Plus sculpteur, ouais.
Quel type d'homme c'était ou c'est votre père? Enfin, comment vous le voyez? Est-ce que vous, comment vous le qualifieriez par rapport aux normes du masculin? Voilà.
Je pense que mon père, je le qualifierais comme quelqu'un de très émotif mais très réservé. C'est-à-dire quelqu'un qui ne parlait jamais vraiment beaucoup de ses émotions, mais on sentait au travers de son art que c'est quelqu'un qui a énormément de sentiments et d'amour pour tout le monde, en fait. Mais il ne le montrait jamais vraiment. Et je l'ai toujours vu comme quelqu'un de très fort, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire très protecteur et qui essayait toujours de venir en aide à ceux qui en avaient besoin. C'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un qui n'a jamais eu peur... quand quelqu'un faisait chier une fille dans le métro, de juste dire au mec d'aller se faire foutre, quoi. Tu vois, ça a toujours été quelqu'un qui, pour moi, a vraiment été un exemple qu'il faut défendre les autres quand c'est juste, en fait.
Oui, donc une force, voilà, bien placée en tout cas, quoi. Voilà,
ouais, pas, c'est un peu la force tranquille, mon père. Ouais, 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 c'est-à-dire ouais. Que c'est un peu le calme plat, mais il suffit d'un truc qui le trigger et il va tout de suite. Monter au front, quoi.
Et qu'est-ce que vous diriez de son apparence? C'est un homme que vous qualifieriez de viril? C'est un homme qui a une part de féminité? C'est un homme qui est comment?
Son apparence, il est très très grand. Il fait presque 2 mètres. Ceinture noire de karaté. Donc... mais à part ça, j'ai toujours trouvé qu'il avait une grande part de féminité parce qu'il faisait toujours très attention... Enfin, comment dire, il est. Après, c'est bon, c'est une définition de la féminité que, comme tant d'autres, mais il faisait très attention à son apparence, les vêtements qu'il portait, il aimait certaines matières.
Il était élégant.
Ouais, il était très élégant, mais il a son style.
Ouais, ouais.
On aime ou on n'aime pas. Mais il aimait vraiment aller dans des boutiques de vêtements avec ma mère et toucher les vêtements, comprendre comment c'était fait. Voilà, et puis aussi, je pense que à travers son, enfin, quand j'étais petite, il était plus dans la peinture que la sculpture, mais il travaille dans la peinture essentiellement avec des couleurs. Il adore le rose. C'est genre, on a une collection de pigments roses à la maison. C'est très très joli. Mais ouais, je trouve que ouais, c'est vraiment, il oscillait entre l'hypersensibilité, le doux et physiquement, c'est un peu une armoire à glace aussi, quoi. Donc, ouais.
Et alors, votre mère, qu'est-ce que vous diriez d'elle? Votre mère était styliste, c'est ça?
Pour le coup, là, on peut dire était, parce qu'elle est décédée quand j'avais 17 ans. Donc, mon père est encore là. J'ai de la chance, je touche du bois. Ma mère, styliste freelance. Donc,
ouais.
Elle travaillait dans le domaine de la chaussure et de la maroquinerie. Enfin, tout ce qui est accessoires, en fait. Surtout dans la mode luxe, donc des marques comme Dior, Balmain, etc. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment parti de rien, quoi. C'est-à-dire, elle est arrivée en France quand elle avait 12 ans, elle a été placée dans la famille de son père qui était je sais pas où en Normandie. C'est elle qui a décidé de venir à Paris, son premier job c'était assistante dentaire, et puis petit à petit, elle s'est fait sa vie, quoi.
Ah ouais, elle s'est vraiment inventé sa vie. Quoi,
voilà.
Parce que ça a été, elle a dû avoir besoin de beaucoup d'énergie pour, pour arriver à faire tout ça.
Ouais. Je pense que quelque chose qui pouvait la définir, c'est que c'était quelqu'un qui travaillait énormément, même trop, enfin qui savait parfois pas s'arrêter, quoi.
Et alors par rapport justement aux normes du féminin, vous m'avez parlé de votre père. Votre mère, vous en diriez quoi?
Toujours à prêter énormément d'attention à son apparence, à faire très attention à... Enfin, elle disait toujours que les vêtements qu'on porte reflètent la personne que l'on est. Donc c'est elle qui m'a appris à vraiment respecter le métier, tous les métiers qui ont à voir avec la mode, en fait, que c'est bien plus que des vêtements.
Et c'est un langage aussi.
Oui, c'est un langage, en fait. Ça montre qui on est, à quoi on fait attention, etc. Quelqu'un de très très élégant, qui faisait très attention à son apparence, mais qui en même temps était très gentil avec tout le monde. Enfin, elle est, c'est, elle, elle, même si elle gravitait dans le milieu de la mode qui est quand même très superficiel et qui a des clichés et où certaines personnes ne sont pas admises, enfin, elle n'était pas comme ça. C'est-à-dire qu'on avait des gens, des amis proches de la famille qui n'avaient rien à voir avec ce milieu, quoi. Donc c'était bien parce que je pense que c'était un exemple qu'il faut garder les pieds sur terre, quoi, et pas oublier l'essentiel, c'est-à-dire les personnes elles-mêmes et tout le monde est super, en fait, quand on y pense.
Et elle était dans des codes de féminité assez classiques, votre mère, ou pas trop?
Oui, je dirais, quand même. Ouais. Enfin, même si c'était côté mode, donc parfois il y avait des tenues un peu nimbres quand même, mais c'était la féminité assez classique, complètement.
Allez, on écoute un premier titre que vous avez choisi pour nous, c'est un titre d'Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own, on écoute ça sur Nova. All I can ever be to you is a darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't pray myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Voilà, c'était Amy Winehouse sur Nova, un choix de notre invitée, la chef d'orchestre Huel Lamor. Huel, pourquoi vous avez choisi Amy Winehouse ?
Je pense que j'ai choisi Amy Winehouse parce que j'ai beaucoup écouté sa musique quand j'étais ado. Je pense que c'est une des premières voix féminines contemporaines qui m'a vraiment marquée. Et puis, je pense que ce qu'elle dégageait aussi, je trouvais qu'il y avait un côté... hyper touchant, et je pense que ça faisait du bien, en fait, de voir une meuf qui juste faisait ses trucs, chantait à sa façon, elle était hyper... je trouve que c'était quelqu'un qui avait l'air d'être vraiment vrai, en fait. Bon, après, son parcours, c'est hyper triste ce qui lui est arrivé. Enfin, pour moi, c'est peut-être une des plus grandes pertes qu'on a essuyées dernièrement.
Alors, vous écoutiez ça donc à l'adolescence, justement. Je vais en profiter pour qu'on reste dans cette période-là. Vous étiez, vous, quel type d'enfant et puis après d'adolescente? Quel type de petite fille vous étiez?
J'étais une petite fille qui était très solitaire. J'avais pas d'amis, en fait. Je ressentais pas vraiment le besoin d'en avoir. Je dirais que je me suffisais à moi-même, en fait. J'avais un peu mon petit monde et je faisais pas trop ce que les autres enfants de mon âge faisaient. Enfin, moi, j'allais dans le jardin et jouais avec des insectes, quoi. C'était cool. En fait, j'étais bien toute seule. C'est plus le souvenir que j'en garde.
Il y a eu la musique très tôt aussi, ouais, pour vous. Ouais. À 5 ans, vous aviez, vous l'avez raconté plusieurs fois cette histoire. Déjà, vous avez voulu un violon, vous avez commencé le violon, puis bon, ça s'est pas hyper bien passé le violon. Après, vous êtes mis à la guitare. Mais j'imagine qu'il y avait ce monde aussi très, très clos, quoi. Enfin, très autosuffisant d'une certaine façon.
Autosuffisant. Et puis, je pense aussi, en grandissant, en fait, chez moi, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour m'amuser toute seule, quoi. Mon père, il laissait tout le temps ses pinceaux et ses peintures traîner. J'avais plein de crayons partout. Je pouvais dessiner, mais pendant des heures. Des heures et des heures. D'ailleurs, je voulais être mangaka au début.
Et... parce que vous êtes passionnée de manga, non?
Ouais. J'essaye de le garder sous contrôle, mais... il y a un moment, c'était un peu extrême.
Et à l'adolescence, comment ça s'est passé pour vous, justement, enfin, au moment de la puberté, au moment où on s'inscrit on devient une jeune fille, une jeune femme. Ça s'est passé comment, ça, pour vous? C'était compliqué, cette identité-là, ou pas du tout
Non, ça l'a pas vraiment été. Mais je pense que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée au collège, avant j'allais à l'école en banlieue, à Vitry, qui était une super école d'ailleurs, avec des petits côtés un peu communistes, qui étaient intéressants. On avait tous le même cartable, tous les mêmes trousses, tous les mêmes crayons. Et en fait, au collège, mes parents m'ont mis dans un lycée privé catholique, dans le 4e arrondissement à Paris. Rien à voir. Donc ça a été un peu un choc culturel pour moi, parce que je suis passée d'un environnement où tout le monde venait de familles plutôt pauvres ou middle class, on va dire, à un endroit où c'était un peu des... Il y avait vachement de gosses de riches, mais il y avait aussi des enfants un peu comme moi qui étaient un peu entre les deux. Et je me suis retrouvée face à des filles 6e, 5e qui venaient avec des petits sacs et tout ça, alors que moi j'avais mon sac à dos, mon baggy. J'étais là, ok, je sais pas trop ce qui se passe.
Beaucoup plus dans une affirmation de féminité, ces filles-là, vous voulez dire?
C'était plus un exemple de féminité auquel j'avais pas été confrontée.
Jusqu'alors.
Exactement.
Ouais. Et alors, quand vous l'avez été?
Franchement, je pense que ça m'a limite, de mon côté, incité à m'affirmer encore plus dans mon identité, parce que je me retrouvais pas du tout dans cet exemple-là, en fait.
Ouais, ouais. Vous, c'était quoi, plutôt, alors, qui vous plaisait?
Moi, je faisais du skate, hein. Je faisais du skate, donc je traînais avec tous les garçons. Donc je venais à l'école avec des jeans qui avaient des trous, qui étaient crades.
Ouais, pas trop de robes, de trucs comme ça?
Non, pas du tout. Ça a jamais été mon truc.
Vous étiez plus à l'aise avec les garçons qu'avec les filles, amicalement, je veux dire, à cette
époque. Complètement, ouais. Et puis après, j'ai commencé à rencontrer plein de filles où on était toutes très différentes. Mais en fait, on est devenus hyper potes. Enfin, aujourd'hui, c'est toujours mes meilleures copines, quoi. Et je pense que, c'est peut-être justement la raison pour laquelle on est toujours aussi copines, en fait. C'est parce que on a toutes rien à voir. En fait, la seule chose qu'on a en commun, c'est qu'on est toutes multiculturelles. On a toutes, soit on est métis, soit on a des parents qui sont pas français. Je pense que c'est là-dedans qu'on s'est pu se retrouver au départ.
Et à cette époque-là, de l'adolescence, est-ce que la séduction, ça vous intéresse? Est-ce que les filles, les garçons, ça vous intéresse? Pas du tout? Vous êtes dans la musique toujours?
Les garçons, jamais. ça ne m'a jamais intéressée. Je pense que j'ai dû briser quelques cœurs, d'ailleurs, malgré moi. Mais non, en fait, je pense que jusqu'à assez tard, j'étais un peu asexuée comme personne. C'est-à-dire que mes amours étaient mes passions. C'est-à-dire la musique.
La musique. Le manga.
Les mangas, le skate, les cartes à jouer. Enfin, ça me suffisait, quoi.
Ouais, c'était des mondes.
J'étais bien comme ça. En fait, je pense que je suis quelqu'un qui cultive mon jardin intérieur. J'ai besoin d'avoir un bonsaï qui est bien taillé en moi, quoi.
Et à l'adolescence, est-ce qu'il y a eu des figures d'identification ou Les figures de... Alors, comme c'est cette émission, je vais vous demander de féminité ou de masculinité, ou tout ça mêlé, qui vous plaisait, par exemple, dans la pop musique. Tout à l'heure, on a parlé d'Amy Winehouse, ou dans le cinéma, ou dans les séries, ou dans les mangas. Enfin, est-ce qu'il y avait des personnages comme ça qui vous aidaient, qui plaisaient?
J'étais hyper fan de l'image des Strokes, par exemple. Je l'ai trouvé hyper stylé. Enfin,
les Strokes ou Julian Casablancas?
Non, les Strokes. Je préfère d'ailleurs Albert Hammond Jr. J'adore son style. Enfin, j'ai trouvé hyper cool.
Ouais.
Enfin, je regardais sur Internet des photos d'eux dans Google pour voir comment ils s'habillaient, tout ça. Je trouvais ça hyper stylé. Et ouais, en fait, je pense que les figures où j'aimais bien l'énergie qu'ils renvoyaient, ça a surtout été des figures masculines.
Ouais.
En fait. Peut-être parce que c'est là où je trouvais peut-être la plus grande diversité à l'époque de style. Je trouvais que, surtout à l'époque, bon, c'était l'époque un peu MTV sur le déclin, on va dire. Et les figures féminines qu'on voyait, bon, c'était pas trop mon délire, quoi. C'était quand même des filles qui étaient majoritairement surtout à poil la plupart du temps, on va dire.
Ouais.
Même si aujourd'hui, bon, ça a changé. Et aujourd'hui, c'est trop cool. Il y a plein de meufs qui font des trucs hyper différents et tout ça. Mais à l'époque, dans ce que j'avais accès, c'était surtout ça que je voyais. Donc c'était plus chez les garçons que je voyais une mixité de styles, quoi, que je préférais, je pense.
Dans le genre de...
Quel genre ?
Grande gueule.
Icône.
Élégant.
Dans le genre de femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me l'écorche.
Puissant.
Masculin.
Masculin.
Musclé.
Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Alors, vous êtes toujours sur Nova, vous êtes toujours en compagnie et dans le genre de la chef d'orchestre Huel Lamor. Elle a 26 ans, elle est donc une des rares chefs d'orchestre en France, puisqu'elles sont, je crois, une petite vingtaine sur plus de 500. Alors, sa particularité, on va en parler aussi, c'est de travailler sur des musiques actuelles, hein, c'est pas d'être une chef d'orchestre classique. On va parler de tout ça, de son métier, de son parcours d'abord, mais avant ça, on va écouter un autre titre qu'elle a choisi pour nous. C'est Saint-Vincent en français. Comment vous dites en anglais ?
Saint-Vincent.
Dancing with a Ghost.
I sway in place to a slow disco and a class for the saints and a bar for the road. Am I thinking what everybody's thinking? I'm so glad I came, but I can't wait to leave. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. This blood in my ears and a fool in the mirror and the pain of mistakes couldn't get any clear. My thinking what everybody's thinking. I'm so glad I came, but I can't wait to leave. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost.
Voilà, c'était Saint Vincent. Pourquoi ce choix, Huel ?
Parce que j'adore Saint Vincent. Enfin, je trouve que elle est tellement stylée. Je pense que c'est ça le mot pour la définir. Et puis ouais, enfin, je pense que tous, enfin, les artistes qu'on va écouter, c'est tous des femmes. Enfin, il y en a un qui est un homme, mais qui ont fait leur truc, en fait, sans trop se poser de questions. Et Saint Vincent, à l'époque, c'était... Enfin, moi, quand je l'ai découvert,
Annie Clark.
C'était hyper indé, quoi. Maintenant, ça l'est plus.
Ouais.
Mais,
oui, elle a réussi quand même à vachement percer, parce qu'elle est restée très longtemps à un niveau assez confidentiel,
oui,
en fait.
Oui, voilà, il n'y avait que certaines personnes qui l'aimaient. Et pourtant, elle a réussi à percer en restant toujours plutôt fidèle à elle-même, quoi. Même en poussant à fond son image. Et ouais, j'ai trouvé que c'était hyper cool. Enfin, elle a designé une guitare spéciale, oui, morphologie féminine.
Oui, pour pas justement, parce que quand on joue de la guitare, ça peut faire mal à un sein, en fait. Voilà, il faut l'expliquer, et c'est vrai.
Ouais, exactement. Si on a une poitrine assez fournie, ça peut être assez compliqué de jouer. Il y a des modèles de guitare où ça va être très compliqué, d'ailleurs.
Ça va faire très mal, en fait. Et effectivement, elle a fait un pan de guitare qui, comme ça, qui respecte la morphologie féminine.
Exactement. Et en plus, c'est une guitare qui est très, très cool, qui est très jolie et qui sonne très bien. Et ouais, aussi, l'autre truc, c'est que Annie Clark, elle est lesbienne. Mais je trouvais que c'était hyper cool que ça soit juste un truc hyper naturel, en fait. Elle est juste là, oui... Je suis gay, bah voilà, c'est tout. Mais sinon, je fais de la musique et c'est ça l'essentiel, quoi. Donc, pour moi, ça a été... Enfin, je trouve que c'est un exemple aussi de force tranquille, Annie Clark,
ouais,
en fait.
Et puis, je pense que ça vous parle aussi, par rapport à votre propre parcours, cette façon de faire son truc, en fait. Hein, juste dans la vie, se dire, voilà ce que je veux pas faire, voilà ce que je... Et je vais vraiment dans la direction où je veux aller sans trop douter, en fait. Ça, c'est vous avez jamais tellement douté, en fait.
Non, de toute façon, j'avais pas le choix, hein, parce que si je commençais à douter par rapport à un métier où j'avais pas vraiment d'exemple, j'allais pas trop m'en sortir, quoi. Donc il fallait un peu que je fonce et que je me dise que au bout d'un moment, ça finirait par marcher, quoi qu'il arrive, quoi.
Ouais, alors vous avez foncé, justement, après le bac, vous êtes allé aux États-Unis, d'abord à Los Angeles pour étudier la guitare, dans un conservatoire de jazz, je crois.
Ouais, c'est ça.
Ensuite, vous êtes allé à Boston, vous avez intégré l'université de Berkeley, vous me dites si je prononce mal. Mmh. Et là, vous avez étudié plein de choses, notamment la composition classique, justement, parce que c'était super loin de votre univers. Vous disiez, justement, c'est quelque chose que je connaissais pas. Donc, voilà. Et puis, vous vous êtes spécialisé en direction orchestrale. Et voilà, vous êtes sorti major de votre promo. Et vous en avez fait votre métier, quelque part. Alors, peut-être que vous allez nous expliquer un petit peu en quoi consiste un peu mieux votre métier, qui est assez mal connu, je pense. Et pourquoi est-ce que c'est un métier qui reste encore si peu accessible aux femmes ?
Je dis toujours que c'est ça. En France, je pense que c'est hyper différent par rapport aux autres pays.
Ouais.
Parce que, enfin, moi, des chefs d'orchestre qui aussi. Bon, l'autre différence, c'est qu'il faut faire la nuance entre les chefs d'orchestre classiques et ceux des musiques actuelles. On n'est pas exactement les mêmes. Mais moi,
dans le domaine classique, c'est un peu plus traditionnel, j'imagine.
Bah, le domaine classique, c'est l'image que tout le monde a du chef d'orchestre, quoi.
C'est-à-dire
un
vieil homme aux cheveux blancs.
Oui, et qui font que le répertoire classique, quoi.
Ouais.
C'est les gens qui travaillent à l'Opéra Bastille, à la Philharmonie, au Théâtre des Champs-Élysées, qui font du Beethoven, du je sais pas quoi. Et nous, on fait jamais de classique. Mais moi, par exemple, dans ma niche de métier, je connais plusieurs femmes qui font le métier que je fais, mais dans le classique, presque pas.
Oui.
Et je pense que ça a à voir avec... d'après ce qu'on dit, moi, j'ai échappé au conservatoire en France, mais que, en fait, les filles, on leur dit ça sera flûte, harpe ou peut-être violon.
C'est des choses qui se perpétuent, en fait. C'est-à-dire qu'il y aurait encore des rôles privilégiés pour les garçons feraient plutôt ça, et les femmes feraient plutôt ça.
Oui, bien sûr. Après, moi, je dis toujours le truc dont je me suis rendu compte, c'est quand j'ai fait mes études de musique classique, donc on parle quand même de 3 ans et demi à étudier ça de 9h à 18h tous les jours, j'ai étudié une compositrice. C'est tout. Donc, donc rien que ça, en fait, on se rend
ça
compte
raconte.
Que... Oui, c'est un truc systématique qui existe depuis des années et des années, des centaines d'années même. Et ouais, je pense qu'en fait, les filles, parfois, juste, ça leur vient même pas à l'esprit qu'elles peuvent faire ça, parce que il y a juste pas d'exemple, en fait. Je pense qu'on a, on a envie de faire un métier quand on voit quelqu'un qui peut-être nous ressemble, qui le fait. On se dit, ah bah oui, moi aussi.
Ça aide beaucoup, en tout
oui,
cas.
Oui, oui, bien sûr, ça donne des pistes, en tout cas. Je pense qu'on entretient un peu cette légende urbaine, musicale, comme quoi le chef d'orchestre est un espèce de surdoué dieu vivant qui a l'oreille absolue et qui a un peu la science infuse. C'est pas vrai du tout. Hein. Le chef d'orchestre, il est normal, quoi. C'est juste qu'il a une fonction spécifique, enfin des fonctions spécifiques, mais c'est pas un génie de la musique, quoi. Il n'y a pas besoin d'être. De connaître toute la littérature, de savoir reconnaître un sol à 20 km comme un oiseau, tu vois, c'est non.
C'est quoi justement votre métier, si vous deviez l'expliquer ?
Bah moi, mon métier, c'est de faire en sorte que la musique soit jouée de la manière dont le compositeur ou la compositrice a voulu qu'elle soit jouée, et que ça soit fait de manière efficace et productive, parce qu'aujourd'hui, le temps est notre pire ennemi dans le métier. Donc en fait, concrètement, c'est j'oscille entre les concerts et les sessions d'enregistrement. Surtout les sessions d'enregistrement, c'est on vient, on a une partition, on doit enregistrer un album ou on doit enregistrer une BO de film. Il y a tout l'orchestre qui arrive et il faut qu'on lit de la répétition, il faut qu'on connaisse la musique hyper bien, qu'on sache comment les instruments interagissent, il faut qu'on ait parlé avec la personne qui a écrit la musique avant, qu'on sache... qu'est-ce qu'elle veut retranscrire au-delà de ce qu'il y a écrit sur le papier. Il faut qu'on vienne et il faut qu'en 3 heures, le truc soit impeccable et que ça soit la meilleure version possible de la musique qui a été imaginée par la personne qui l'a écrite, quoi.
Alors justement, vous prenez une approche très moderne, très décloisonnée, justement, hein, à l'inverse de ce dont on parlait par rapport au classique. Et encore, je ne veux pas généraliser, puisqu'il doit y avoir des types d'approches très différents à l'intérieur même du classique. Mais vous, en fait, vous intéressez donc aux musiques actuelles. Quand vous êtes rentrée de France, peu de temps après, vous avez créé un orchestre qui s'appelle Orage. Donc, y a une volonté, il me semble aussi, qu'il y ait des rapports de genre et de pouvoir un peu différents à l'intérieur de cet orchestre.
Enfin, je pense que ça, c'est plus ma philosophie que j'essaye d'implanter partout où je passe.
C'est intéressant.
En fait. C'est, comme je le disais, moi, je me sens pas supérieure aux musiciens avec lesquels je travaille, en fait. Je pense, j'utilise un peu l'analogie du meuble Ikea. Moi, je suis la colle, en fait. Je suis le truc qui va faire en sorte que ça tienne. Mais s'il y a un concert et que le chef d'orchestre est malade et peut pas venir, les musiciens, ils peuvent faire le concert. Hein. Il n'y a pas de problème.
C'est-à-dire que votre boulot, c'est surtout avant, c'est toutes les répétitions.
Ah, complètement, En fait, quand on arrive au concert, le truc, on l'a joué 150 000 fois. Enfin, s'il pourrait y avoir une météorite qui tombe dans la salle, on le finira, quoi qu'il arrive. Tu vois. Donc oui, moi, c'est quelque chose que je veux le faire sentir aux musiciens, que j'ai un énorme respect pour les musiciens. Quoi. Enfin, je trouve que c'est pour avoir été à leur place, bien sûr, en tant que guitariste, c'est un peu différent. Mais c'est des bêtes, quoi. C'est des tueurs, tous. Puis aussi, je trouve... Moi, je ressens plus de plaisir quand j'arrive et que quand on a vraiment une atmosphère qui est hyper détendue et sereine, en fait. Et où, en fait, on est tous là juste pour faire de la bonne musique. C'est tout. Pas pour se sentir supérieur, je sais pas.
Alors, vous dirigez des groupes d'humains. Il y a des hommes, il y a des femmes. Est-ce que, justement, vous percevez parfois que les normes de genre, elles sont encore là, qu'il y a une intégration de ça, que les hommes s'adressent différemment à vous, ou pas du tout, ou parce que vous travaillez avec des jeunes générations et tout ça, ça évolue ?
Le fait que je travaille avec des gens qui ont, comme je disais avant, à peu près le même âge que moi, ça fait qu'on se parle.
Donc entre 20 et 30 ans,
ouais,
à peu
voilà,
près
20, 35, on va dire, on se parle tous un peu de la même manière, quoi. Et puis aussi, vu qu'on est dans une catégorie d'orchestre un peu différente, on a des manières de travailler un peu différentes aussi. Donc il n'y a pas trop de problèmes il n'y a jamais eu de problèmes par rapport à ça. Je pense que c'est plus par rapport à mon âge. Parfois, quand j'arrive, parfois je suis la plus jeune dans la salle. Et là, les gens, ils sont un peu en mode qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est là où il faut un peu. J'aime pas trop le terme s'imposer, mais c'est plus montrer qu'on est très qualifié pour faire ce qu'il faut faire.
Et vous, votre genre, on ne vous a jamais posé tellement de problèmes pour vous imposer dans votre métier, votre couleur de peau non plus, votre orientation sexuelle non plus. Ça n'a pas été un problème, ça, pour vous ?
Bah non, ça n'a pas été un problème. Enfin, je pense que de manière, quand on y réfléchit, assez triste, ça a été un avantage. Parce que vu que je suis une fille et que je sors de la norme, j'ai plus d'attention que les autres. Est-ce que si j'étais un homme et que je ferais la même chose, est-ce que j'aurais autant d'attention ? Je ne pense pas. Donc je suis consciente de ça et je trouve ça un peu nul, mais en même temps bah, j'en prends bien avantage, donc c'est bien quand même. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la plupart du temps, quand on me pose la question en interview, etc.
On vous demande qu'est-ce que ça fait d'être une femme chef d'orchestre, c'est
bah
ça ?
Bah oui, en fait j'ai pas envie de parler de ça, parce que moi le seul sujet qui m'intéresse c'est que les gens sachent que je fais du bon travail, enfin j'espère que je fais du bon travail, que ce que je fais c'est bien quoi. Après le reste, c'est-à-dire à chaque fois je suis là, est-ce que tu m'interviewes parce que je suis une fille ou est-ce que tu m'interviewes parce que je fais un truc cool en fait, c'est, vous voyez.
Oui, après ça raconte encore quelque chose de la société dans laquelle
oui.
on se trouve.
Oui, oui, bien sûr. Et puis je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le fait que bon, pas, on va dire pas maintenant, parce que à cause du corona, je ne peux pas traverser la Manche, mais c'est peut-être une raison pour laquelle travailler à Londres, ça me fait autant de bien, quoi, parce que là-bas.
C'est plus simple.
Oui, oui, beaucoup plus simple. Ouais. Je trouve que là-bas, enfin, on m'a jamais posé la question, quoi, jamais. C'est d'ailleurs l'orchestre avec lequel je travaille, le LCO. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un orchestre qui est vraiment très très haut niveau.
Ouais.
Enfin, la plupart des gens qui sont au management et à la direction, c'est toutes des femmes en fait. Donc, en fait, il y a pas trop la question. Enfin, la singularité n'en est pas une là-bas, en fait.
Allez, on écoute un peu de musique. Tina Turner, We Don't Need Another Hero sur Nova. Voilà, c'était Tina Turner sur Nova. Huel, alors Tina Turner.
Tina Turner, qu'est-ce que j'adore.
Elle
Tina
tellement
Turner.
Cool, vous disiez.
Enfin, cette chanson-là, il y a des gens qui la détestent et qui ont une haine sans limite pour cette chanson et pour le film dont elle est issue. Mais ouais, moi j'adore Tina Turner. Enfin,
qu'est-ce qui vous plaît chez elle?
Ce qui me plaît chez elle, bah, déjà la voix, c'est un truc de dingue. Et puis ouais. Tina Turner, enfin, elle a tellement d'énergie, et puis son histoire est incroyable, quoi. parce que ça n'a pas été facile, quoi. Avec Turner, c'est un psychopathe, quoi. C'est quand même un truc de dingue qu'elle s'est juste cassée en plein milieu de la nuit et elle est allée sonner. Je crois qu'elle est allée à un hôtel et elle a dit « Je suis Tina Turner, elle n'avait plus une thune ». Et puis en plus, il lui a fait un sale coup, quoi. Il a gardé tous les droits de Ike et Tina Turner. Enfin, elle est vraiment repartie de rien du tout pour au final devenir une des plus grandes pop stars des États-Unis et peut-être au monde. Et puis, ouais, je trouve que c'est hyper cool qu'elle ait fait genre du cinéma avec Mad Max. Quand je l'ai vue dans Mad Max, elle était la méchante, j'étais là « Wouah, putain, Tina Turner !» C'était trop, trop stylé. Et puis même ses clips, c'est un peu nimp aussi ses clips. Enfin, y a une chanson d'elle qui s'appelle... je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, il y a des danseurs un peu bizarres qui sont en train de danser avec du maquillage hyper blanc. Et c'est hyper malaisant, mais c'est hyper cool en même temps. Et ouais, je trouve qu'elle est trop stylée, Tina Turner.
Ouais, voilà, donc vous en parliez, c'est une pop star noire, ouais, américaine. En France, la visibilité des femmes noires, que ce soit dans la chanson ou dans le monde du cinéma, elle est bien moindre.
Inexistante, je dirais. Enfin, même si c'est en train de changer, mais ouais, enfin, en France, je sais pas, Harry Roselmack, je sais pas combien de temps il a duré, mais c'était un espoir, mais qui très rapidement, je sais pas, il a disparu, il est allé quelque part d'autre. Mais ouais, enfin, en France, c'est chaud, quoi. C'est dur, enfin, même...
Vous trouvez que ça évolue ou pas trop depuis là? Vous avez quoi? Vous avez 26 ans, c'est ça? Depuis que vous êtes enfant, vous trouvez que ça a évolué dans le paysage médiatique, culturel français, ou que c'est très lent?
Très franchement, moi, je vois pas trop de grandes différences. Hein. Je vais être très honnête là-dessus. Je trouve que... Peut-être d'une manière assez perverse, maintenant on est en train d'associer l'image du noir ou de l'arabe ou de la personne de couleur de manière générale avec l'image du banlieusard un peu craignos.
Et, enfin, qu'est-ce que vous voulez dire?
Qu'est-ce que je veux dire? C'est par exemple quand on regarde un film et qu'il y a trois personnages de couleur et deux d'entre eux sont dealers et l'autre est basketteur, quoi. Je comprends pas comment on peut encore faire des films comme ça. Moi, c'est quelque chose qui me dérange vraiment, en fait.
Voilà, on écoute un petit extrait. C'est Aïssa Maïga lors de la dernière cérémonie des Césars. Et elle parle assez courageusement devant un parterre de cette question.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Bien ou bien? Eh mais, il y a quelques têtes que je reconnais. Il y a Eye, Aïdara, j'ai vu Karidja aussi. Ladj, c'est bien elle est? C'était chouette. En fait, excusez-moi, je vais vous faire une confidence. Ça fait plus de deux décennies que, à chaque fois que je me retrouve comme ça dans une grande réunion du métier, je peux pas m'empêcher. C'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. Ouais. Enfin, j'en ai oublié un, c'est Vincent Cassel. C'était toi le Renoir du cinéma français avant la diversité.
Voilà, c'est un extrait d'Aïssa Maïga lors de la dernière cérémonie des Césars. Et donc, elle était arrivée sur scène en comptant le nombre de personnes noires qu'elle voyait face à elle dans la salle. Et ça a fait un peu polémique, ce discours-là. Enfin, il y a certains qui ont dit que c'était pas possible de compter les gens. Enfin, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette intervention et de ce qu'elle a soulevé, en fait, face à ce parterre?
Moi, je vais te dire tout de suite, j'étais à Londres, le jour d'après, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, écoute, ça, c'est marrant parce que la semaine d'avant, je suis allée voir un concert de musique classique avec ma copine et j'ai fait la même chose, j'ai compté les noirs qui étaient dans la salle, il y en avait trois. Donc, ouais, moi, je trouve qu'elle a raison, quoi. C'est vrai, elle a totalement raison. On est quand même un pays qui a beaucoup de personnes de couleur. On ne va pas faire comme s'ils n'existaient pas. Ils sont là, ils font partie de l'histoire du pays. Ils sont français et on ne les voit pas, quoi. Elle a raison. enfin quand on va au César, ouais, enfin moi c'est quelque chose que je remarque de plus en plus, quoi. Il y a pas de représentation, quoi.
Puis j'imagine que ça a aussi des répercussions assez fortes sur les jeunes filles et garçons noirs qui grandissent en France, et pas que d'ailleurs, aussi sur les blancs dans la façon dont ils vont les percevoir. Mais j'imagine que c'est pas facile de se construire, de grandir avec des exemples comme ça de représentations qui sont très dépréciatifs, en fait.
Ah bah oui complètement. Bah je pense que c'est hyper toxique, en fait, et ça contribue à un espèce de traumatisme générationnel, quoi, qui dure depuis le temps des colonies et de l'esclavagisme et qui est entretenu, quoi, de manière un peu perverse, je trouve.
Dans la musique, vous avez la sensation que c'est différent ?
Oui. Dans la musique, j'ai la sensation que c'est différent. Après, la musique classique, ça, c'est un autre sujet. Je ne sais pas pour la musique classique, mais j'imagine que ce n'est pas différent dans la musique classique. Mais moi, dans le domaine des musiques actuelles, je le ressens pas trop, le racisme. Peut-être qu'il est là, mais pour moi, il est moins visible que dans le cinéma, par exemple.
Alors, on écoute un titre que vous avez choisi pour nous, Aldous Hardling, The Barrel sur Nova. I feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hut. The water's the shell and we are the nut. But I saw a hand out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside of nowhere. It's already day. I know you have the dove. I'm not. Show the ferret to the egg. I'm not getting let alone. You shook at the ivory mantle. As a poet, I knew to be gentle. When you have a child, so begins the braiding. Stay. Look at all the peaches. I want to celebrate. I can appear inside of nowhere. It's already dead. I know you have the dove. I'm not getting wet. A date is set. Show the ferret to the egg. I'm not getting let alone.
Nova.
Dans le genre de.
Ruelle Lamour, quel rapport vous entretenez avec votre physique ?
Bah, je pense que depuis que je me suis coupé les cheveux, ça a changé. Ce qui m'est arrivé, quelque chose de c'est assez étrange ce qui a commencé à se passer. Avant, j'avais les cheveux plutôt longs. Et quand ils sont très bouclés, etc. Et je me suis coupé les cheveux parce que j'en avais marre de dépenser 50€ en crème et en huile par mois. Et à partir du moment où je me suis coupé les cheveux, on m'a appelé monsieur partout. C'était incroyable.
Ouais.
C'était...
Vous attendiez pas du tout ?
Ah non, pas du tout.
Ouais.
Je m'étais juste coupé les cheveux, court. En plus, je pense que de mon côté, mon héritage africain, en fait, c'est hyper commun hein, pour les femmes d'avoir les cheveux courts, la tête rasée, même la boule à zéro. Hein, c'est un style qui est très commun. Et on a commencé à m'appeler monsieur. Et c'était oufissime, quoi. J'ai eu l'impression de devenir un mec, quoi. Même la perception des gens dans la rue qu'ils avaient de moi était différente. C'était un truc de dingue. Et puis, du coup, vu que je m'étais coupé les cheveux courts, je me suis dit, je vais peut-être un peu changer mon style vestimentaire pour, je sais pas, tester d'autres trucs. Donc, j'ai commencé à m'habiller plus à la japonaise, c'est-à-dire plus des vêtements amples, des petits kimonos, des baskets, etc. Donc un style un peu asexué, on va dire. Enfin, qui pour moi est asexué de mon point de vue sino-franco-japonais. Et ouais, enfin, il y avait partout où je rentrais, à la poste, quand j'allais par exemple à la quincaillerie ou que j'étais en scooter, les gens pensaient que j'étais un homme, quoi. Et je prends un peu plaisir à ce nouveau super pouvoir que je me suis découvert. Donc ouais, ça m'amuse un peu, ouais.
Qu'est-ce que vous mettez en avant pour séduire, vous ?
Qu'est-ce que je... Oula, faudrait demander à ma copine. je sais pas, je suis quelqu'un de très timide, donc j'ai un peu du mal à parler. Je pense que j'essaye de mettre en avant le fait que je suis un peu chelou parfois. C'est-à-dire essayer de parler de manga dans les 5 minutes.
Votre originalité, quoi,
mettre en avant ça. Oui, voilà, parce que j'essaye de mettre en avant ma personnalité, j'espère en tout cas.
Qu'est-ce qui vous plaît chez une femme ou chez un homme ?
J'aime les personnes qui font attention à comment elles s'habillent, c'est-à-dire pas forcément style, etc., mais qui ont un style vestimentaire intéressant. Je pense que ça vient de mes parents. Mmh. Et j'aime aussi quand les personnes ont une dimension un peu créative et artistique, et quand c'est des personnes qui cultivent un peu leur indépendance. Enfin, c'est ça. En fait, j'ai l'impression de me décrire moi-même, c'est très étrange.
on va rien dire de plus que ça. Alors. Est-ce que vous auriez aimé être un homme ?
Non, je pense pas. Parce que je pense que pour les hommes, je pense que d'une certaine manière, ça doit être très dur pour eux aussi, en fait. Je crois que... En fait, à chaque fois que je vois un mec un peu con dans la rue, qui fait chier et tout ça, je me dis qu'en fait, il a dû avoir une enfance un peu pourrie, en fait. On a dû lui enseigner des trucs comme les garçons, ça pleure pas, les garçons, ça met pas de rose, les garçons, ça se bat, etc. Et je pense que malheureusement, les mecs, je pense la plupart d'entre eux, hein, ils grandissent un peu dans une violence qu'elle aurait imposée. Et ça... Enfin... L'être humain n'est pas fait pour ça, en fait. Je pense que quand on grandit comme ça, on devient quelqu'un de très con. Et le pire, je pense que ces personnes-là, ils le savent, en fait, au fond d'eux-mêmes, quoi. Qu'ils sont un peu cassés. Et ouais, enfin, moi, ça me rend triste, en fait, la plupart du temps.
Et est-ce que vous auriez aimé être une femme très différente de celle que vous êtes ?
Non, je pense pas. Je crois pas que ça m'aurait intéressé. En fait, je sais pas. J'ai toujours eu l'impression que j'étais un peu dans un entre-deux, en fait. Que j'étais ni vraiment du côté des femmes et ni vraiment du côté des mecs. Un peu genre un espèce d'hybride, quoi. Dans la manière dont je me perçois, la manière dont je m'habille, la manière dont je parle. Et je pense que ça a beaucoup à voir avec la manière dont j'ai été éduquée. Un peu comme un garçon unique qui n'en est pas un. Avec une mère hyper féminine qui m'éduque comme une fille unique, un peu cette espèce de mix un peu des deux extrêmes. Donc ouais, je me sens très femme, très fille, etc. Mais dans la manière dont je me porte et dont je me comporte et dans mes choix, je pense que je me vois plus dans une brèche, quoi, entre les deux.
Ben voilà, ce sera notre mot de la fin. C'est la fin de cette émission. Merci, Huel. Elle a été réalisée par Benoît Thuot, qu'on embrasse bien. Et nous, on se retrouve dans 15 jours avec un autre invité. D'ici là, prenez bien soin de vous.
Dans le genre.
Dans le genre. Une émission à retrouver en podcast sur nova.fr.